Pour ma part, je ne blâme point Boulogne d'avoir averti les Navarres, même si cela devait accréditer qu'il leur était vendu, car un prêtre de la Sainte Église, et qui plus est un membre de la curie pontificale, un frère du pape dans le Seigneur, ne peut entendre de sang-froid qu'on va perpétrer un triple meurtre et accepter qu'il s'accomplisse sans rien avoir tenté. C'était s'y laisser associer, en quelque sorte, par le silence. Qu'avait donc le roi Jean besoin de parler devant Boulogne? Il n'avait qu'à apposter ses sergents. Mais non, il s'est cru habile. Ah, ce roi-là, quand il veut faire le finaud, il n'a jamais su venir voir trois coups d'échec en avant. Sans doute pensait-il que, lorsque le pape lui ferait remontrance d'avoir ensanglanté son palais, il aurait beau jeu de répondre « Mais votre cardinal était là, qui ne m'a point désapprouvé. » Boulogne n'est pas perdreau de la dernière couvée qu'on amène à donner dans de si gros panneaux. Charles de Navarre, ainsi averti, se retira donc très hâtivement vers son hôtel où il fit apprêter son escorte. Le roi Jean, ne voyant point paraître les trois frères à sa fête, les envoya quérir, fort impérativement. Mais son messager ne reçut pour réponse que le paix des chevaux, car juste à ce moment, les Navarres tournaient bride vers la Normandie. Le roi Jean entra alors dans un vif courroux où il cacha son dépit en faisant l'offensé. « Voyez ce mauvais fils, ce félon qui se refuse à l'amitié de son roi et qui de lui-même s'exile de ma cour. Il doit avoir à celer de bien méchants desseins. » Et de cela, il prit prétexte pour proclamer qu'il suspendait l'effet du traité de Mantes qu'il n'avait jamais commencé d'exécuter. Ce qu'apprenant, Charles renvoya son frère Louis en Navarre et dépêcha son frère Philippe en Cotentin afin d'y lever des troupes, lui-même ne restant guère à Évreux. Car dans le même temps, notre Saint-Père, le pape Innocent, avait décidé d'une conférence en Avignon, la troisième, la quatrième, ou plutôt la même, toujours recommencée, entre les envoyés des rois de France et d'Angleterre pour négocier non plus d'une trêve reconduite, mais d'une paix vraie et définitive. Innocent voulait, cette fois, disait-il, mener à succès l'œuvre de son prédécesseur, et il se flattait de réussir là où Clément VI avait échoué. La présomption, Archambault, se loge même au cœur des pontifes. Le cardinal de Boulogne avait présidé les négociations antérieures. Innocent le reconduisit en cet office. Boulogne avait toujours été suspect, comme je l'étais également, au roi Édouard d'Angleterre, qu'il estimait trop proche des intérêts de la France. Or, depuis le traité de Mantes et la fuite de Charles le Mauvais, il était suspect aussi au roi Jean. À cause de cela, peut-être, Boulogne mena la rencontre mieux qu'on ne l'attendait. Il n'avait personne à ménager. Il s'entendit assez bien avec les évêques de Londres et de Norwich, et surtout avec le duc de Lancastre, qui est un bonhomme de guerre et un seigneur véritable. Et moi-même, en retrait, je mis la main à l'œuvre. Le petit Navarrais dut avoir vent. Ah, voici la braise. Brunet, glisse le pot sous mes robes. Il est bien clos, au moins, que je ne m'aille pas brûler. Oui, cela va bien. Donc, Charles de Navarre dut avoir vent que l'on progressait vers la paix, ce qui certes n'eut pas arrangé ses affaires, car un beau jour de novembre, il y a tout juste 2 ans, le voilà qui surgit en Avignon, où nul ne l'attendait. C'est en cette occasion que je le vis pour la première fois. 24 ans, mais n'en paraissant pas plus de 18 à cause de sa petite taille, car il est bref, vraiment très bref, le plus petit des rois d'Europe, mais si bien pris dans sa personne, si droit, si leste, si vif, que l'on ne songe pas à s'aviser de ce défaut. Avec cela, un charmant visage, que ne dépare point un nez un peu fort, de beaux yeux de renard au coin déjà plissé en étoile par la malice. Son dehors est si affable, ses façons si polies et légères à la fois, sa parole si aisée, coulante et imprévue. Il est si prompt aux compliments, il passe si prestement de la gravité à la badinerie et de la musaille au grand sérieux. Enfin, il paraît si disposé à montrer de l'amitié aux gens que l'on comprend que les femmes lui résistent si peu et que les hommes se laissent si bien embobliner par lui. Non, vraiment, je n'ai jamais ouï plus vaillant parleur que ce petit roi-là. On oublie à l'entendre la mauvaiseté qui se cache sous tant de bonne grâce et qu'il est déjà bien endurci dans le stratagème, le mensonge et le crime. Il a un primesot qui le fait pardonner de ses noirceurs secrètes. Son affaire, quand il parut en Avignon, n'était pas des meilleures. Il était en insoumission au regard du roi de France, qui s'employait à saisir ses châteaux, et il avait fort blessé le roi d'Angleterre en signant le traité de Mantes, sans même l'en avertir. Voilà un homme qui m'appelle à son aide et me propose bonne entrée en Normandie, je fais mouvoir pour lui mes troupes de Bretagne, j'en apprête d'autres à débarquer, Et quand il s'est rendu assez fort, par mon appui pour intimider son adversaire, il traite avec lui, sans m'en prévenir. À présent qu'il s'adresse à qui bon lui plaira, qu'il s'adresse au pape. Eh bien, c'était justement au pape que Charles de Navarre venait s'adresser. Et après une semaine, il avait retourné tout le monde en sa faveur. En présence du Saint-Père et devant plusieurs cardinaux dont j'étais, il jure qu'il ne veut rien tant qu'être réconcilié avec le roi de France, y mettant tout le cœur qu'il faut pour que chacun le croie. Auprès des délégués de Jean II, le chancelier Pierre de la Forêt et le duc de Bourbon, il va même plus loin, leur laissant entendre que pour prix de la bonne amitié qu'il veut restaurer, il pourrait aller lever des troupes en Navarre afin d'attaquer les Anglais en Bretagne ou sur leurs propres côtes. Mais dans les jours suivants, ayant fait mine de sortir de la ville avec son escorte, il y revient de nuit plusieurs fois, et à la dérobée, pour conférer avec le duc de Lancastre et les émissaires anglais. Il abritait ses secrètes rencontres tantôt chez Pierre Bertrand, le cardinal d'Arras, tantôt chez Guy de Boulogne lui-même. J'en ai d'ailleurs fait reproche plus tard à Boulogne, qui tirait un peu trop sa paille aux deux mangeoires. « Je voulais savoir ce qu'il manigançait, m'a-t-il répondu. En prêtant ma maison, je pouvais les faire écouter par mes espies. Ces espies devaient être fort sourds, car il n'a rien su du tout, ou bien il a faim de ne rien savoir. S'il n'était pas dans la connivence, alors c'est que le roi de Navarre lui a tiré le mouchoir de dessous le nez. Moi, j'ai su. Et vous plaît-il de connaître, mon neveu, comment Navarre s'y prit pour se gagner Lancastre ? Eh bien, il lui proposa tout fièrement de reconnaître le roi Édouard d'Angleterre pour roi de France. Rien moins que cela. Ils allèrent même si avant en besogne qu'ils projetèrent un traité de bonne alliance. Premier point, Navarre, donc, eut reconnu en Édouard le roi de France. Second point, il convenait de conduire ensemble la guerre contre le roi Jean. Troisième point, Édouard reconnaissait à Charles de Navarre le duché de Normandie, la Champagne, la Brie, Chartres et aussi la lieutenance du Languedoc, en plus bien sûr de son royaume de Navarre et du comté d'Évreux, autant dire qu'il se partageait la France. Je vous passe le reste. Comment ai-je eu connaissance de ce projet ? Ah, je puis vous dire qu'il fut noté de la propre main de l'évêque de Londres qui accompagnait messire de Lancastre, mais ne me demandez point qui m'en a instruit un peu plus tard. Souvenez-vous que je suis chanoine de la cathédrale d'York et que, si mal en cours que je sois outre-Manche, j'y ai conservé quelques intelligences. Point n'est besoin de vous assurer que si l'on avait eu d'abord quelque chance de progresser vers une paix entre la France et l'Angleterre, elles furent toutes minées par le passage du sémillant petit roi. Comment les ambassadeurs auraient-ils voulu plus avant s'accorder quand chacune des deux parties se croyait encouragée à la guerre par les promesses de Monseigneur de Navarre ? À Bourbon, il disait « Je parle à Lancastre, mais je lui mens pour vous servir ». Puis il venait chuchoter à Lancastre « Certes, j'ai vu Bourbon pour le tromper ». Je suis votre homme. Et l'admirable, c'est que les deux le croyaient. Si bien que, lorsque vraiment il s'éloigna d'Avignon pour gagner les Pyrénées, des deux côtés on était convaincus, tout en prenant bien soin de n'en rien dire, de voir partir un ami. La conférence entra dans l'aigreur, on ne se concédait plus rien, et la ville entra dans la torpeur. Pendant 3 semaines, on n'avait rien fait que de s'occuper de Charles le Mauvais. Le pape lui-même, surpris, en redevenant morose et geignard. Le méchant charmeur, un moment, l'avait distrait. Ah, me voilà réchauffé. À vous, mon neveu, tirez le pot de braise de vers vous et vous dégourdissez un peu.